Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour, bienvenue à l'écoute de cette édition matinale du 16 mai 2014 en direct du studio 13 de la Voix d'Amérique, ici à Washington. Au micro, Camille Grosdidier avec Anne Arbatson pour Le Monde Aujourd'hui. Bonjour Anne.
Bonjour Camille, bonjour à tous.
Un mois après le kidnapping des jeunes filles au Nigeria, une journée de solidarité a été respectée jeudi dans bon nombre de pays africains. Notre correspondante au Togo, Kai Lawson, nous en dira davantage. Et puis le département d'État américain a dénoncé fermement la condamnation à mort au Soudan d'une chrétienne accusée d'apostasie. Darina Naidoo aura tous les détails. Aux États-Unis, grève des employés des chaînes de restauration rapide. Ils réclament des augmentations de salaire. Et bien sûr, on retrouvera Bagassi Koura pour l'actualité sportive et Roger Muntou pour la musique. Mais tout d'abord, le journal.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
République centrafricaine, la dépouille de la journaliste française Camille Lepage, tuée lors d'un reportage en brousse avec les milices anti-Balaka, a été rapatriée en France. Plusieurs personnalités, dont le premier ministre centrafricain André Nzampayeke, lui ont rendu un ultime hommage jeudi lors d'une cérémonie au camp Mpoko, près de l'aéroport de Bangui. Par ailleurs, les anti-Balaka ont nommé jeudi Sébastien Venezoui, leur coordinateur national. Le Fonds monétaire international a débloqué jeudi une aide d'urgence de près de 13 millions de dollars en faveur de la République centrafricaine. Ce feu vert du FMI va permettre aux autorités centrafricaines d'ouvrir des discussions avec d'autres partenaires de développement pour obtenir davantage d'aide, note le Fonds dans un communiqué. Évoquant les difficultés redoutables auxquelles le gouvernement de Bangui est aujourd'hui confronté, Naoyuki Shinohara, directeur général adjoint du FMI, a évoqué l'effondrement de l'économie en RCA. Il a promis que le FMI va jouer un rôle clé en coordonnant les initiatives internationales pour apporter au pays l'aide financière et l'assistance technique dont il a tant besoin. Le pasteur Paul Joseph Munkugubila Mutombo a été arrêté à Johannesburg, en Afrique du Sud, puis relâché sous caution. Il devra recomparaître devant le juge sud-africain le 15 juillet. En décembre, des hommes qui se revendiquaient comme ses fidèles, avaient mené des attaques dans plusieurs villes en République démocratique du Congo. Il s'était réfugié en janvier en Afrique du Sud, où il a demandé asile. Les violences de décembre avaient été interprétées en RDC comme une tentative de coup d'État contre le président Joseph Kabila. Le pasteur congolais, dirigeant de l'église du Seigneur Jésus-Christ à Lubumbashi, est visé par un mandat d'arrêt international émis par Interpol sur une plainte de la RDC.
Au Burkina Faso, l'opposition veut faire tout pour empêcher la tenue d'un référendum sur la modification de la Constitution. Elle a annoncé l'organisation prochaine de plusieurs actions d'envergure, comme l'explique au micro de Bagassi Koura, Roch Marc-Christian Caboré, président du mouvement du peuple pour le progrès.
Nous avons décidé non seulement de faire une grande manifestation au stade du 4 août le 31 mai, qui va nous permettre de réaffirmer nos positions. Nous prévoyons un meeting également à Bobo. Nous allons rencontrer le corps diplomatique présent au Burkina Faso pour encore expliquer nos points de vue. Et nous allons faire des sorties dans les provinces pour rencontrer nos militants et encore expliquer pourquoi nous sommes opposés donc au référendum sur l'article 37. Je pense que je peux montrer aussi quand même que ceux qui sont opposés à la mise en œuvre du référendum sont aussi importants et représentent quand même un poids dans ce pays. L'autre aspect du problème, c'est qu'est-ce qui prouve que ça va réussir? Nous sommes dans un combat d'idées, un combat politique. Je pense que nous devons continuer à mener l'action jusqu'à ce que nous ayons la victoire. On n'a pas dit que dès le 31, ce serait une victoire pour l'opposition.
C'était Roch Marc-Christian Caboré, président du MPP, joint à Ouagadougou.
Vive réaction du département d'État américain suite à la condamnation à mort au Soudan d'une femme chrétienne accusée d'apostasie. Darina Naidoo.
Meriam Yahya Ibrahim Ishag a été condamnée à la flagellation pour adultère et à être pendue jusqu'à ce que mort s'en suive pour apostasie parce qu'elle a épousé un chrétien, a dénoncé la porte-parole du gouvernement américain Kathleen Hayden. Nous condamnons fermement cette sentence et exhortons le gouvernement du Soudan à respecter ses obligations en vertu du droit international sur les droits humains, a-t-elle poursuivi dans un communiqué. Les États-Unis ont appelé le gouvernement du Soudan à respecter le droit de Mme Ishag à la liberté de religion, un droit humain universel stipulé dans la Constitution intérimaire soudanaise de 2005 ainsi que dans les textes internationaux. Mme Ishag, qui est enceinte de 8 mois, est toujours incarcérée avec son fils de 20 mois. Elle avait été condamnée dimanche pour apostasie par un tribunal de Khartoum qui lui a donné jusqu'à jeudi pour abjurer sa foi ou faire face à une possible condamnation à mort. Elle s'est déclarée chrétienne et la sentence de mort est tombée. Selon l'ONG de défense des droits humains Amnesty International, Mme Ishag a été élevée en tant que chrétienne orthodoxe, la religion de sa mère, car son père, un musulman, avait disparu. Elle s'est ensuite mariée avec un chrétien du Soudan du Sud. Or, selon la loi islamique en vigueur au Soudan, elle est considérée comme musulmane et une femme musulmane ne peut épouser un homme d'une autre religion. Toujours selon le département d'État américain, depuis 1999, le Soudan a été désigné comme un pays particulièrement préoccupant pour ses violations continues, flagrantes et systématiques de la liberté religieuse.
Au Nigeria, la situation reste tendue alors que la communauté internationale pointe du doigt l'inaction du président Goodluck Jonathan. Le chef de l'État nigérian pourrait se rendre incessamment dans le nord du pays, fief de Boko Haram. Des détails avec Issa Napon.
Les déclarations et contradictions se sont succédées hier à propos d'un éventuel déplacement du président nigérian à Chibok, localité du nord du pays dans l'état de Borno où s'est déroulé le kidnapping de plus de 200 lycéennes. Des officiels avaient annoncé la visite de Goodluck Jonathan à Chibok avant son départ pour Paris où il doit participer à une rencontre spéciale sur la sécurité convoquée par le président François Hollande. Mais un responsable a démenti l'information. Le sommet de Paris, auquel sont attendus les présidents du Cameroun, du Bénin, du Niger et du Tchad, devrait mettre en place de nouvelles stratégies selon François Hollande pour mieux faire face aux défis posés par Boko Haram et les groupes terroristes de la région. Le groupe islamiste a, dans un premier temps, menacé de vendre comme esclaves ou de marier à ses militants les centaines de lycéennes détenues. Mais Boko Haram a par la suite offert de les échanger contre certains de ses membres emprisonnés au Nigeria.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Colère et tristesse en Turquie après la tragédie dans une mine de charbon au sud d'Istanbul. Des journaux ont publié une photo montrant un collaborateur du Premier ministre Recep Tayyip Erdogan en train de frapper une protestataire maintenue au sol par la police. Et ce, alors qu'Erdogan est critiqué pour son apparente indifférence face au drame qui a coûté la vie à au moins 282 personnes. Pour le Premier ministre turc, de tels accidents sont, je cite, « des faits ordinaires ».
Médecins sans frontières confirme que les 5 membres de son personnel détenu en Syrie ont été libérés et sont sains et saufs. MSF a condamné ces enlèvements qui l'avaient contraint à fermer définitivement un hôpital et 2 centres de santé dans le nord-ouest de la Syrie.
Par ailleurs, le secrétaire d'État américain John Kerry a relancé la polémique sur de possibles attaques à l'arme chimique. Il affirme avoir vu des informations suggérant que le gouvernement de Damas utilise du chlore pour des attaques au gaz contre des civils et des rebelles.
Par ailleurs, les employés des chaînes de restauration rapide dans des dizaines de grandes villes américaines ont organisé une grève d'un jour jeudi pour réclamer des augmentations de salaire. Ils affirment ne plus pouvoir nourrir leur famille avec ce qu'ils gagnent. Des centaines d'employés ont manifesté devant des McDonald's, Wendy et Domino Pizza pour demander que leur salaire soit porté à $15 de l'heure. Ils exigent également le droit de se syndiquer.
Selon un nouveau rapport de l'Organisation mondiale de la santé, on vit aujourd'hui en moyenne 6 ans de plus qu'il y a 24 ans. L'espérance de vie entre 1990 et 2012 s'est améliorée, surtout dans les pays à faible revenu, dont les habitants peuvent compter vivre 9 ans de plus.
Une bonne nouvelle pour l'Afrique, 3 des 6 pays ayant enregistré les plus fortes hausses de l'espérance de vie sont le Libéria, de 42 ans à 62 ans, suivi par l'Éthiopie, de 45 à 64 ans, et le Rwanda, de 48 à 65 ans.
Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont durci le ton jeudi à l'égard de Moscou à l'approche de l'élection présidentielle en Ukraine, prévue le 25 mai. Ils ont averti que les sanctions économiques et commerciales seront renforcées si la Russie tente d'entraver le scrutin. Et les désaccords entre l'Occident et la Russie commencent à affecter la coopération scientifique entre Washington et Moscou. La Russie menace de fermer les stations de surveillance de la navigation par satellite des États-Unis en Russie. Des détails avec Chérubin Dorsil.
La menace de fermer les stations qui surveillent les signaux du système de géolocalisation mondial américain GPS fait suite à d'autres avertissements concernant la rupture éventuelle de la coopération scientifique entre les deux pays. Le vice-premier ministre russe Dmitri Rogozin a également annoncé que Moscou va interdire l'utilisation par les États-Unis des moteurs de fusées russes pour lancer des satellites militaires. La Russie, dit-il, va réduire de 4 ans sa participation à la Station spatiale internationale. Il y a 11 stations GPS en Russie qui pourraient être forcées de suspendre leurs activités le 1er juin. Selon le professeur Richard Langley de l'Université du Nouveau-Brunswick, ces stations sont utilisées pour extraire des données scientifiques à partir des signaux satellites. Leur fermeture n'affectera pas les opérations quotidiennes du système mondial GPS, par exemple le type de positionnement et de navigation que nous faisons avec nos unités de navigation automobile. Mais cela aura un impact négatif sur les études scientifiques qui sont faites en utilisant des signaux GPS, dit le professeur Langley.
Merci Anna Robertson, on vous retrouvera en fin d'émission. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique, au micro Camille Grosdidier. Il est 6h12, temps universel. En Centrafrique, les généraux de l'ex-Séléka ont formé un nouvel état-major. Suite à leur rencontre à Ndélé, dans le nord du pays, la coalition, qui se fait appeler maintenant Force républicaine, nie catégoriquement les allégations d'autonomie administrative. Idriss Fall a joint à Bambari le colonel Christian Narkoyo, deuxième porte-parole de la Force républicaine.
Notre autonomie, ce n'est pas administrative, mais beaucoup plus qu'au côté militaire. On a mis en place l'état-major pour contrôler notre zone. Vous savez, depuis la crise de ce pays, il y a beaucoup de choses qui se passent et toujours mis sur le dos de la Séléka, ex-Séléka. Et aujourd'hui, nous voulons mettre fin à ces fausses accusations.
Qu'est-ce que ça signifie autonomie militaire? Qu'est-ce que vous allez faire alors?
Vous savez, on a notre état-major ici, donc nous ne dépendrons pas de l'état-major de Bangui. Nous voulons assurer la sécurité de la population zébien, garantir la sécurité de notre zone. Vous savez, l'histoire de l'assassinat du journaliste Camille Hiver Bois serait été de notre côté ici, donc on va nous accuser. Malheureusement, ça a été passé vers Bois. Là, tout le monde sait que ce sont les anti-Balaka qui l'ont tué.
Mais on a trouvé son corps dans un véhicule des anti-Balaka.
Non, mais ça, c'est une zone contrôlée par les anti-Balaka. On n'a aucun élément vers ce côté.
Mais est-ce que vous allez travailler avec les forces internationales alors?
Tout à fait, tout à fait. On va travailler avec la MISCA, on va travailler avec les forces sangaristes ensemble.
Qui est maintenant le nouveau chef d'état-major des forces républicaines?
C'est général de brigade Joseph Zundeko.
Et est-ce que vous avez pu vous mettre d'accord sur en fait une structure politique pendant votre congrès à Ndélé?
Côté politique, non. Nous, on a agi tout juste côté militaire. Mais on laisse la latitude aux hommes politiques pour fixer la date, voire côté politique. Mais sinon, ça, c'est un peu à notre niveau.
Le colonel Christian Narkoyo, deuxième porte-parole de la Force républicaine ou ex-Séléka.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
Camille Grosdidier, pour Le Monde Aujourd'hui, un mois après le kidnapping des jeunes filles au Nigeria, une journée de solidarité a été respectée jeudi dans bon nombre de pays africains. Les organisations féminines se sont mobilisées à Lomé pour exiger la libération des filles. On écoute notre correspondante au Togo, Kay Lawson.
C'est tout de rouge vêtu que les femmes togolaises ont exprimé leur indignation suite à l'enlèvement des 230 filles à Tibok au Nigeria. Les organisations féminines togolaises ont tenu à marquer cette journée de solidarité pour exiger la libération de ces jeunes nigérianes. À l'issue d'une marche, des centaines de Togolaises se sont retrouvées devant l'ambassade du Nigeria au Togo où elles ont fait une déclaration dont le contenu est résumé par Epiphanie Roumé et Clou Kwevanou, coordinatrice du groupe de réflexion Femmes, droit et développement GF2D.
Le droit à l'éducation, le droit à la sécurité constituent des prérogatives fondamentales pour toute personne, y compris pour les jeunes filles nigérianes. Nous demandons à ces groupes de personnes de libérer ces filles et nous interpellons dans notre message l'État nigérien, les États africains à assurer la sécurité dans nos lieux publics et particulièrement dans les écoles. Et nous disons que nous ne voulons plus jamais ça dans nos pays africains.
Le message délivré, l'ambassadeur du Nigeria au Togo a rassuré les manifestantes. Mathieu Adoli.
J'ai facilement écouté vos demandes pour la libération des écoliers de Chibok. Et je voudrais vous rassurer que tous les efforts sont sérieusement mis en place pour assurer la liberté inconditionnelle des innocentes écolières. Donc, pour le moment, il n'y aura pas d'échange de filles avec les prisonniers. Je veux vous assurer que, par la grâce de Dieu, il y aura de bonnes nouvelles au sujet de ces filles très bientôt.
Les organisations de femmes ont été appuyées par les associations de défense des droits des enfants. Cléophas Mali, directeur de WAO Afrique.
Ces jeunes filles, ce sont des enfants et notre organisation s'occupe de la défense des droits de l'enfant. Il est tout à fait normal que nous participions à des manifestations de ce genre et nous participerons à toutes les manifestations qui seront organisées jusqu'à la libération totale de ces enfants. C'est une véritable violation de leurs droits, c'est même un crime contre l'humanité. Prendre ces enfants, ces catégories d'enfants et croire qu'on est en train de faire des revendications politiques, c'est vraiment une conception erronée. Car aucune religion, aucune culture, aucune conception, même philosophique, ne peut accepter ce genre de comportement.
Libérez nos filles ! Libérez nos filles !
Kaylosson Lomé pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé. Sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpané. 6h17, temps universel, au micro Camille Grodidier. Ici aux États-Unis, les médecins traitant les séropositifs se félicitent d'une recommandation fédérale sur l'utilisation du Truvada par ceux qui risquent d'être infectés par le virus. Cela pourrait aider, disent-ils, à ne plus dépendre seulement des préservatifs comme moyen préventif en incluant un traitement antirétroviral. Les précisions de Lionel Le Gaïma.
À 50 000 par an, le nombre de nouvelles infections par le VIH est pratiquement resté inchangé aux États-Unis. Les services de santé ont préconisé presque exclusivement l'utilisation de préservatifs pour empêcher la propagation du virus. Il est transmis, dans la plupart des cas, par de jeunes homosexuels qui n'usent pas de préservatifs. Richard Elion, chargé de la recherche à la clinique spécialisée Whitman Walker de Washington, D.C. Avoir de la prévention biologique est très, très important pour les gens dont les comportements ne sont pas exactement ce qu'ils devraient être. Donc, je pense que c'est une inestimable addition à la lutte contre le VIH et aux efforts pour nous rapprocher du jour où nous aurons une génération vivant sans le sida. Les études ont montré que le Truvada est à 99% efficace dans la prévention de l'infection par le VIH. Le traitement a été prescrit par les médecins de Whitman Walker à quelques 170 patients, bien que, tout comme les services de santé, ils recommandent l'utilisation simultanée des préservatifs. Les médicaments génériques Truvada que fabrique l'Inde sont devenus le principal traitement anti-sida dans les pays pauvres. Certains médecins craignent que leur utilisation généralisée n'encourage de comportements sexuels plus risqués, mais Richard Elion trouve ces craintes exagérées et le fait d'une minorité. Pour lui, on ne fait qu'offrir un outil de plus contre le sida et non pas un substitut. Ici, aux États-Unis, presque la moitié de personnes prenant le Truvada sont des femmes. Le traitement est particulièrement recommandé aux catégories courantes des grands risques, dont les gens qui ont des partenaires bisexuels, les homosexuels qui n'utilisent pas les préservatifs et les drogués qui se piquent.
Camille Grodidier pour Le Monde Aujourd'hui. Le magazine Jeune Afrique a proposé récemment une sélection des 50 personnalités africaines les plus influentes à travers le monde. Ces hommes et femmes sont riches ou pas, célèbres ou méconnus, subsahariens ou maghrébins. Alors, quel est leur point commun ? Eh bien, avoir le pouvoir d'influer sur le cours des choses dans leur domaine, sur le continent, selon le magazine africain d'information basé à Paris. Sur les motivations d'un tel dossier, on écoute Marwan Benyamed, directeur exécutif de la rédaction de Jeune Afrique.
On avait l'habitude de publier un classement des Africains les plus influents, tout court, c'est-à-dire au sein de leur propre continent. Et on s'est interrogé de savoir ce que les Africains eux-mêmes, en dehors de leurs frontières, étaient capables de réaliser. Donc on s'est penché sur une sélection d'une cinquantaine d'entre eux, qui est évidemment forcément subjective. L'idée n'est pas de dire que ce sont les 50 seuls Africains influents en dehors de leurs frontières, mais on a voulu faire, disons, un choix en fonction des différentes catégories, des différentes régions d'Afrique et surtout des différentes thématiques dans laquelle ils peuvent se retrouver représentés, c'est-à-dire dans le monde des affaires, dans les institutions internationales, mais aussi dans la science, la recherche, les médias, le sport ou tout simplement la culture.
Alors un classement de ce genre ne sera jamais exhaustif, vous l'avez vous-même dit. Qu'avez-vous à répondre à ceux qui ne manqueront pas de vous parler d'omissions graves ?
On s'est attaché principalement aux personnalités qui ont un impact majeur, encore une fois, pas forcément médiatique. C'est-à-dire, c'est pas ceux dont on parle le plus, mais c'est ceux qui, dans leur domaine, encore une fois, ça peut être le monde des affaires ou la recherche, par exemple, font autorité, pèsent, ont une influence certaine sur un secteur en particulier ou une région géographique particulière, plus ou moins vaste. On ne s'est pas intéressé qu'à ceux dont les médias parlent, qu'ils soient médias audiovisuels ou presse écrite.
À quel usage destinez-vous une telle typologie ?
L'intérêt, je pense, c'est d'abord de se rendre compte que les Africains réussissent, et pas seulement chez eux, qu'ils parviennent à occuper des postes à très haute responsabilité, y compris dans des entreprises ou des institutions majeures. Par exemple, Tidiane Thiam, qui est le directeur général de Prudential, qui est un des plus grands assureurs de la planète, anglo-saxon en l'occurrence, ou alors au sein d'organisations internationales. Et c'est, encore une fois, il faut préciser que ce n'est pas un classement forcément positif, puisqu'on peut retrouver dedans Abdelmalek Droukdel, par exemple, l'émir d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, dont on ne peut pas nier l'influence, fut-elle extrêmement négative.
Marwan Benyamed, directeur exécutif de la rédaction de Jeune Afrique, il était joint à Paris par Jean-Roger Billon. Et maintenant, place au sport, présentation Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Bonjour Camille.
Alors en football, Samuel Eto'o était au Burkina.
Oui, la star Samuel Eto'o a séjourné au Burkina Faso mardi et mercredi dernier en tant qu'ambassadeur de la Copa Coca-Cola, une compétition de jeunes. Le grand bénéficiaire de ce passage de Samuel Eto'o est Abdul Salam Ouedraogo, un jeune joueur de 15 ans que Samuel Eto'o a décidé d'amener avec lui au Brésil à la Coupe du Monde 2014. Eto'o s'est aussi exprimé sur la rivalité au sein des Lions Indomptables.
Mais il n'y a pas de rivalité entre Eto'o et d'autres joueurs parce que nous sommes d'abord fils d'une même mère. Nous autres, nous avons eu une grande chance, c'est de devenir joueur professionnel et cela implique beaucoup d'avantages dont je ne vois pas quelle différence nous pouvons avoir parce que quand on vient défendre notre beau et cher pays, je ne vois pas pourquoi il devrait y avoir de rivalité. Moi, du moins de mon côté, je n'en ai pas.
Voilà, c'était Samuel Eto'o au micro de notre correspondant à Ouagadougou, Salif Kabouré.
Ajoutons qu'après le Burkina Faso, Eto'o est arrivé à Abidjan où il a traité son entraîneur de guignol.
Oui, l'attaquant du club anglais de Chelsea a effectivement traité son entraîneur portugais José Mourinho de guignol dans un entretien paru jeudi dans la presse ivoirienne. « Ce n'est pas parce qu'un guignol m'a traité de vieux que vous allez croire à cela », a déclaré Samuel Eto'o, répondant à une question sur son âge. Vous vous rappelez que José Mourinho avait mis en doute l'âge réel de Samuel Eto'o dans une interview télévisée en février dernier.
Eto'o n'est pas seul à s'en prendre à son entraîneur.
Oui, apparemment c'est à la mode. Le français Franck Ribéry a critiqué le système de rotation imposé par l'entraîneur Pep Guardiola au Bayern Munich. Ils sont à deux jours de la finale de la Coupe d'Allemagne samedi face à Dortmund. Et Ribéry a déclaré « Parfois tu joues, parfois tu restes sur le banc et parfois tu restes à la maison. Ce fut pour tous une situation nouvelle ». A déclaré l'international français sur le site de l'hebdomadaire spécialisé allemand Kicker. Et puis Camille, les play-offs de la NBA en basketball se poursuivent.
En championnat nord-américain de basketball, Indiana a éliminé Washington et rejoint Miami en finale de conférence. Pas de miracle hier soir donc pour les Wizards de Washington. Ils se sont inclinés face aux Pacers de l'Indiana sur le score de 93-80. Quant aux Clippers de Los Angeles, ils avaient pris dès le début de la soirée une nette avance sur l'Oklahoma City. Mais une fois de plus, le Thunder s'est ressaisi pour l'emporter par 104-98.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau de Sporama sur la Voix de l'Amérique. La Coupe du Monde au Brésil non-stop sur votre portable, c'est possible, allez sur voabrésil2014.com. Les matchs en direct, résultats photos et vidéos de cet événement planétaire à partager avec vos amis sur Facebook et Twitter. La Coupe du Monde non-stop, c'est sur voabrésil2014.com.
Voilà, c'est tout pour les sports et maintenant on enchaîne avec la musique, bien sûr, c'est Roger Muntu. Bonjour Roger.
Bonjour Camille.
Alors, le choix de ce matin?
Ce matin, une bonne rumba congolaise avec l'artiste Koffi Olomide dans La Perle Noire.
La Perle Noire, moi c'est Kitoko. Kende o kende ke o la kaka o kuzungai adresse o tike la kingana kome la kaiwe na komi na lembi na zwe ata iyangote zoko zungana kinye feli mubando zoko zungana kinye.
Roger, je ne connais pas grand-chose de cet artiste. Qu'est-ce que tu peux me dire de lui?
Écoute, Koffi Olomide est un chanteur de la République démocratique du Congo. Ses chansons sont en français et en lingala. Enfant, il voulait devenir footballeur, mais c'est vers 1978, durant ses vacances à Kinshasa, il revenait de la France, hein, où il était allé étudier, qu'il enregistra ses premières chansons. L'année 1983 marquera le début d'une aventure musicale qui commence avec la sortie de l'album Ngunda. 3 ans après, il crée un groupe, le Quartier Latin International, dont il est le chef aujourd'hui.
Et avec toutes ces années d'expérience, il doit avoir reçu des prix.
Effectivement, Camille, son travail lui a valu, outre 5 disques d'or, 4 trophées au Kora Award en 2002, en une soirée, et le titre de meilleur artiste de la décennie en 2005, toujours au Kora Award. Il est aussi l'un des 12 artistes musiciens africains et le seul Congolais d'ailleurs à avoir été cité dans le 1001 albums qu'il faut avoir écouté dans sa vie.
Et merci Roger et à demain.
Au revoir Camille.
Roger Muntu que vous pouvez suivre dans RM Show chaque jour à 20h temps universel.
Betangai sete ya Yesu. Kasimbangu ya moninga basombela kayango imboate.
Si je savais ça na linga na tena gabotama ni kamwe manango mama felimo bando.
Service express. Bien aimé, Ami Sikimbeni.
On se quitte en musique, c'est ainsi que s'achève Le Monde Aujourd'hui, présenté par Camille Grosdidier et Anna Butson. Merci à la rédaction et chers auditeurs, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt sur La Voix de l'Amérique.
Pour les dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.